Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse de ce vendredi 20 février 2009. Comme vous le savez, dans cette émission, nous analysons avec des confrères quelques grands faits qui ont dominé l'actualité de la semaine. Et nous avons retenu trois thèmes au menu de l'émission de ce soir, à savoir la réunion des concertations entre les deux chefs d'état-major des armées congolaises et ougandaises qui s'est terminée hier à Kinshasa. Selon une source gouvernementale congolaise, le début du retrait des troupes ougandaises de la RDC est fixé au samedi 28 février, c'est-à-dire à la fin de ce mois. Les pourparlers directs du gouvernement CNDP en sont ce vendredi à leur troisième journée, c'est à Goma, au Nord Kivu. Les discussions sur les questions politiques, administratives et sécuritaires et juridiques, ainsi que sur les matières humanitaires et sociales, commencées hier jeudi, se poursuivent en commission, c'est le deuxième thème de notre émission. Et enfin, nous parlerons de la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Un dollar s'échange aujourd'hui à 760 francs congolais au taux officiel contre 690 francs il y a plus d'une semaine. Et pendant ce temps, les institutions financières internationales se proposent d'octroyer à la RDC de l'argent pour faire face à la crise financière internationale. Nous recevons dans cette émission trois confrères pour en parler. Victoire Eyobi, directeur des publications du magazine Entreprendre, un mensuel économique paraissant ici à Kinshasa. Claude Mauricio Kayembe, il est journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, la station de Kinshasa. Et au téléphone dans la province du Bandundu, nous avons Niro Mukwakalombo, correspondant de la radio-télévision Groupe L'Avenir, RTGA, une chaîne de radio-télévision émettant à partir de Kinshasa. Bonsoir à tous. Bien avant d'entrer dans le vif de notre émission de ce soir, jetons d'abord un coup d'œil aux différents journaux parus à Kinshasa et qui ont été lus pour nous par notre consoeur Titi Mpoutou qui nous en fait un condensé dans cette revue de presse.
Bonsoir. À la une des journaux parus cette semaine à Kinshasa, la reprise à Goma des pourparlers entre le gouvernement congolais et le CNDP en vue de relancer le processus de Nairobi. Le plus remarquable, c'est que le pourparler se tient sans médiation ou facilitation internationale ou régionale. Ils sont directs, note le palmarès. Comme un enfant devenu mûr, la RD Congo est en train de prouver qu'elle peut se passer de la tutelle parentale de la communauté internationale. Autre sujet d'actualité commenté cette semaine, les opérations militaires conjointes FARDC armée ougandaise contre la rébellion de la LRA dans la province orientale, avec la tenue à Kinshasa d'une réunion d'évaluation des opérations. Opération conjointe, c'est ce que le Congolais craignait qui risque de leur arriver. Kigali et Kampala demandent les prolongations, écrit le journal Le Phare dans sa parution de mardi dernier. Tout le problème d'après ce journal, c'est que la RDC se voulait donneuse de leçons de démocratie au Rwanda. Mais la surprise est plutôt venue de Kigali qui a réussi le pari de susciter l'union sacrée autour de ses objectifs en RDC en encourageant le débat au sein de son parlement. Comme par hasard, Kampala de son côté est né sur la même longueur d'onde après s'être rendu compte que la LRA menace toujours Kampala, poursuit Le Phare. Enfin, dans cette page, la dégradation de la situation économique en RD Congo aura été aussi l'autre sujet fortement commenté par la presse à Kinshasa. Le potentiel dans sa parution de jeudi parle du cri d'alarme de Jean-Claude Massangou. Pour ce quotidien quinois, le gouverneur de la Banque centrale du Congo est sorti de sa torpeur. La situation économique de la RDC est préoccupante. Les finances publiques explosent. Les réserves en devises s'effritent. La croissance périclite, la dépréciation de la monnaie entraîne les prix à la hausse. Le tableau est sombre, mais Massangou pense qu'il n'y a pas lieu de désespérer. À propos toujours de cette crise, Le Phare pour sa part écrit « Jean-Claude Massangou, nous tenons le choc ». Malgré la récession, le secteur bancaire affiche une bonne santé. Après mars, la situation sera nettement meilleure, poursuit le même journal. L'avenir, quant à lui, signale que pour faire face à la crise, la Banque centrale du Congo a augmenté à 4 reprises son taux directeur pour le situer actuellement à 65% l'an et intervenir sur le marché d'échange avec 10 millions de dollars.
Merci beaucoup, Titi Mpoutou. Victoire Eyobi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de publication du magazine économique Entreprendre qui apparaît ici à Kinshasa. Dans une minute, pensez-vous qu'il y a des choses qui pouvaient être dites mais que la presse chinoise a oubliées par rapport aux faits d'actualité que nous analysons ce soir?
Je pense que là, ce sont toutes des grandes préoccupations du moment, c'est-à-dire d'un côté la situation économique et de l'autre côté, il y a la situation à l'est du pays, mais je pense également qu'on pouvait parler de la crise entre d'un côté le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, et de l'autre la présidence de la République.
Miro Mukakalombo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes correspondant de la chaîne de radio-télévision groupe L'Avenir RTGIA dans la province de Bandundu. Quelle a été la lecture des médias sur place dans la province de Bandundu par rapport à ces différents faits d'actualité que nous traitons dans notre émission ce soir et qui ont été aussi traités par la presse chinoise?
En fait, vous devez comprendre qu'ici, dans la province de Bandundu, précisément au chef-lieu de la province, par rapport au traitement que vous venez d'énumérer là, la première situation à ce qui concerne la rencontre gouvernement CNDP à Goma, vous savez que de ce côté-là, il y a bon nombre de gens qui qualifient cette rencontre comme étant une mascarade, quoi. Simplement, l'astuce du CNDP ne convainc personne si ce n'est que pour faire partie du gouvernement que ces assises se tiennent. Et aussi, cette approche est mal vue du fait que tous les groupes armés disséminés ça et là peuvent se servir de ces modèles comme procédure pour entrer au gouvernement. Et pourtant, c'est genre de pourparlers. On est déjà arrivé à placer des structures bien comme les cadres à Mani. Il y a eu aussi les négociations de Nairobi, et aujourd'hui on va aller sur un autre cadre. N'est-ce pas tous les petits différents groupes militaires qui sont au niveau de l'Est là vont aussi se plancher pour chercher à traquer le gouvernement de façon à négocier avec le gouvernement comme le fait le CNDP.
C'est
la première analyse que fait la population par rapport à cette question.
Okay, merci.
Mais à la question qui concerne la dépréciation du franc congolais, il est vrai qu'ici, pratiquement, dans les Bandundu,
il y a des... Merci Niro Mukakalombo, je crois que nous n'avons pas encore commencé le débat. Merci beaucoup pour la première lecture de la presse au niveau de la province du Bandundu par rapport aux faits d'actualité, mais nous allons revenir pour un temps profondeur, mais nous revenons au studio avec vous, Claude Molisho Kayembe. Vous êtes journaliste à la chaîne de radio et télévision nationale congolaise RTNC ici à Kinshasa. Quelle est votre lecture par rapport au traitement de l'actualité de ces trois sujets que nous traitons ce soir?
Voilà, ce sont les sujets d'actualité. Aujourd'hui, tout le monde en parle, les opérations conjointes, soit au nord, c'est-à-dire contre la LRA, et dans le nord Kivu, les opérations conjointes contre les FLR. Et il y a aussi les pourparlers, CNDP gouvernement. C'est encourageant parce que aujourd'hui, il y a des signaux positifs. Dans ce sens-là, que les deux parties maintenant vont négocier dans la sérénité. Il y a aussi l'actualité, c'est aussi la dépréciation du franc congolais. Mais moi, je souhaiterais à ce que la presse parle également de la crise entre Vital Kamerhe et sa famille politique, le PPRD.
Je crois bien qu'elle a peut-être été évoquée, mais malheureusement, comme cela n'a pas été retenu comme les thèmes de notre émission ce soir, ça a peut-être échappé à notre revue de presse, mais on pourra bien revenir là-dessus. Revenons dans notre émission. La réunion de concertation entre les deux chefs d'état-major des armées congolaises et ougandaises s'est terminée hier à Kinshasa. Selon une source gouvernementale congolaise, la RDC a refusé la demande de prolongation des opérations formulées par la partie ougandaise. D'après la même source, le début du retrait des troupes ougandaises de la RDC est fixé au samedi 28 février prochain, c'est-à-dire à la fin de ce mois. Pour approuver le programme de ce retrait, les chefs d'état-major des deux armées vont se rencontrer le vendredi 27 février prochain, c'est-à-dire un jour avant le début du retrait des troupes de la coalition ougandaise et sud-soudanaise. Quant aux chefs d'état congolais et ougandais, ils se rencontreront le 27 février, poursuit notre source. Du côté ougandais, on prend acte de la décision de Kinshasa. D'après le porte-parole de l'armée ougandaise, jugeant ce vendredi par Radio Okapi, la RDC est un état souverain qui sait apprécier quelle décision prendre pour le bien de Congolais. Tout ce que je sais, ajoute le major Félix Koulagier, les exactions des rebelles de la LRA affectent plus les Congolais que les Ougandais. On écoute le major Félix Koulagier, joint au téléphone par notre confrère Jean-Claude Ntumba Kamanga.
C'est une bonne chose si Kinshasa décide de notre départ. On ne peut rien, c'est votre pays. Mais je pense que le plus important, c'est de se demander qui est le plus affecté, les Congolais ou les Ougandais. Les Congolais acceptent-ils l'ERA ou non? Est-ce une bonne décision qui vient d'être prise? À cette question, je pense que les autorités congolaises savent ce qui est bon pour le peuple congolais. En conclusion, nous allons respecter les souhaits du peuple congolais.
Merci aussi à Jean-Claude Tumbakamara qui nous a traduit ses propos qui ont été en anglais. Rappelons que le mardi dernier, l'armée ougandaise avait manifesté le souhait de garder ses troupes sur le sol congolais jusqu'à l'éradication complète de l'ERA. Claude Moulish Kayembe, vous êtes journaliste à la chaîne des radios et télévisions nationales congolaises RTNC et Netanyahu Kinshasa. Avec cette décision du retrait des troupes ougandaises à la fin de ces mois, peut-on dire que les objectifs de ces opérations militaires ont été complètement atteints?
Oui, on ne peut pas dire que c'est complètement atteint, mais c'est presque à 90% atteint parce que aujourd'hui on a repoussé la LRA jusqu'au niveau de l'extrême nord de la province orientale vers la frontière avec la République centrafricaine. Et l'objectif était de capturer le chef rebelle Joseph Kony.
Mais malheureusement, il n'a pas été capturé.
Et tout à fait, mais il est pourchassé. Il est pourchassé parce que au jour d'aujourd'hui, il y a les forces armées de la RDC qui sont déjà au niveau de la rivière Ubangi pour essayer de contrer la fuite de ces chefs rebelles. Et aujourd'hui, les choses ont évolué positivement de ce côté-là et je pense que jusqu'à la fin de la semaine prochaine, et il peut y avoir, on peut dire que ces opérations ont connu un succès.
Oui, c'est ça le plus grand problème, c'est que les Ougandais considèrent que les rats sont encore sur le sol congolais. Est-ce que vous pensez que les capacités des FARDC aujourd'hui sont acquises pour chasser seuls et mettre en scène complètement le problème des rats?
Et après les départs des Ougandais, les forces armées de la RDC peuvent à elles seules poursuivre les poches de ces rebelles qui résistent un peu vraiment dans des petits coins, mais qui ne sont plus, ce n'est plus une force rebelle qui peut inquiéter encore le gouvernement congolais ou la population locale au niveau de la province orientale, mais les forces armées, les forces de la police peuvent s'y prendre pour essayer un peu de les disperser, les arrêter.
Ok, merci beaucoup. Nous allons rejoindre Niro Mkwakalombo à Bandundouville. Vous êtes correspondant de la chaîne de radio-télévision RTGA. Joseph Kony, le leader du LRA, est encore libre. Vous pensez que même s'il y a ces poches qu'on qualifie de petites poches de résistance, est-ce que Joseph Kony, qui est encore libre, ne peut pas s'organiser de nouveau et nuire à cette partie de la région du Grand Lac africain?
Oui, merci. Vous devez savoir que Joseph Kony, qui est le patron de cette milice au niveau de l'Est, a été réduit, comme vous venez de le souligner là. Mais de toutes les façons, c'est l'un des sources aussi que nous avons pu joindre. Vous savez qu'il y a eu des mois de Joseph Kony qui se sont dispersés dans la profondeur de la forêt. Et ces éléments-là qui sont en train de fuir ne seront pas exterminés en entièreté. Et puis, étant difficile pour traquer en éclair d'œil tous ces éléments de Joseph Kony, c'est un danger aussi qui se présente. Et par rapport à ça, moi je pense que le gouvernement qui s'est déjà lancé dans cette coalition doit gérer avec tact et transparence cette question. Parce que il y a déjà la LRA qui, si on ne prend pas, on ne fait pas attention et on n'y prend pas garde, ça peut être un élément détonateur qui peut justifier en quelque sorte une énigme de guerre d'agression. Donc c'est un danger qui nous guette encore. Donc il faudra qu'on parle d'un anéantisme total des éléments de la LRA. Donc je suis d'avis que malgré que Joseph Kony est réduit, mais il n'est pas réduit à 100%, il faut qu'on fasse beaucoup d'attention pour être convaincu qu'effectivement il n'y a plus présence des éléments de la LRA parce qu'ils viennent toujours en compte-goutte et l'un des quatre matins ils sont nombreux et ils commencent à saccager notre pays.
Ok, Victoire Ayobi, selon l'AFP qui cite le porte-parole du gouvernement Lambert Mende, les LRA aujourd'hui sont réduits, il parle des 180 éléments qui sont à côté de Joseph Kony dans une forêt marécageuse dans le parc de la Garamba, ce qui veut dire que les LRA ne peuvent plus nuire. Mais est-ce que ces 180 à côté de Joseph Kony ne peuvent pas demain justifier le retour de l'armée ougandaise en RDC, juste pour mettre fin totalement à cette histoire des LRA et Victoire Ingabire.
Oui, c'est possible dans le cadre de la coopération, mais je voulais relever d'abord le fait que le chef d'état-major ougandais, le porte-parole, tout à l'heure, il a parlé sous un ton de regret. C'est-à-dire que pour lui, il considère réellement que leur mission en RDC n'est pas terminée et que de l'autre côté, la petite poche de rebelles qui restent vont continuer à nuire aux populations congolaises et que c'était intéressant pour la RDC de leur permettre de poursuivre leur mission. C'est là toute l'équation des différentes missions engagées en RDC depuis 1996, c'est-à-dire le Congo, ses voisins immédiats, ainsi que la communauté internationale, ont toujours tenté d'anéantir les poches des rébellions à l'Est, mais jamais ils ne sont parvenus. Et là déjà avec l'Ouganda, nous voyons déjà une image de ce qui pourrait être également pour les FDLR. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que ces poches-là, soi-disant poches, ne sont pas extirpées, le danger va toujours demeurer. Vous savez, 180 hommes en armes, et là ce n'est pas n'importe quel homme en armes, ce sont des actifs, ce sont des gens qui chaque jour se donnent à ces métiers, ils représenteront encore un danger tant pour les populations que pour les États voisins, parce qu'à tout moment ils peuvent entrer de l'autre côté, opérer et nuire aux institutions en place. Donc je me dis que quelque part que c'est une mission qui n'est pas parachevée et qu'il y aura lieu de voir comment d'autres mécanismes aller jusqu'au bout de cette vision.
Claude Moulis Soukayembe, vous êtes journaliste de la radio télévision nationale congolaise RTNC, c'est à Kinshasa. Vous pensez que la décision du gouvernement congolais de décider les retraites des troupes ougandaises, vous pensez que c'est parce qu'il y a de bons résultats ou bien c'est parce qu'il y a des pressions à gauche, à droite, la population qui voit de mauvais oeil la présence des militaires étrangers sur le sol congolais?
Non, moi je dirais qu'il faut atteindre l'objectif. Et l'objectif ici, c'est la pacification de cette partie de la province orientale. Il faut qu'on anéantisse cette rébellion de la LRA. C'est ça l'objectif. Mais les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement congolais et le gouvernement ougandais, les deux parties sont fixées une échéance, c'est-à-dire d'ici le 28 février. Alors, s'ils estiment que d'ici le 28, on n'a pas encore vraiment extirpé cette rébellion de la LRA, ils peuvent encore se mettre d'accord sur une autre échéance, mais ça dépend des deux gouvernements. Mais dans un premier temps, ce sont fixés comme échéance le 28 février, et comme on va faire l'évaluation et comme on s'aperçoit que les LRA sont un peu réduits, il ne reste que 180 ou 190 personnes autour de Joseph Kony, mais on peut les pourchasser. Les forces armées de la République démocratique du Congo peuvent pourchasser ces groupes pour les anéantir parce qu'ils ne constituent plus un danger pour les gouvernements congolais. Mais si on a une force considérable qui peut vraiment inquiéter soit les populations locales, soit le gouvernement central, ça c'est inquiétant. Mais comme ils sont en train d'être réduits, moi je pense que soit les deux parties peuvent se fixer une autre échéance, ou soit les troupes ougandaises rentrent chez eux et les troupes congolaises poursuivent les opérations.
Merci beaucoup. Terminons cette partie avec vous, Niro Mukwakalombo. Lambert Mende, des porte-parole du gouvernement cité par l'agence France Presse, a déclaré que nous estimons que les Ougandais n'ont plus rien à faire chez nous, fin de citation. Ce qui montre qu'effectivement, ils n'ont plus rien à faire. La situation est peut-être contrôlée, mais nous nous rappelons aussi que l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa avait, dans un point de presse depuis des semaines, dit que les opérations étaient un véritable succès. Vous ne pensez pas, Niro Mukwakalombo, que tous ces éléments réunis font aujourd'hui donnent confiance au gouvernement congolais de maîtriser la situation et que la police et l'armée peuvent continuer à maîtriser la situation pour et enfin que l'LRA ne soit plus un danger pour la RDC?
Oui, merci. Nous devons comprendre une chose, que dans ce genre de négociations, il y a toujours eu des situations en amont et en aval. La première situation qui concerne la République démocratique du Congo, c'est la partie négociation. Il y a eu une coalition entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais. Ils se sont fixés même une échéance. À la fin du mois de février, ils doivent aller. C'est très bon. Mais comme notre confrère venait de le souligner là, si seulement le gouvernement, les militaires ougandais ne sont pas satisfaits d'être arrivés à la fin de leur mission, ne voyez-vous pas que ça peut compromettre la paix de l'île ici à la République démocratique du Congo? Parce que cette fois-là, quand nous allons faire appel toujours à ces gouvernements ougandais, ils vont nous dire, écoutez, nous avons bien voulu jouer et en terminer, vous avez refusé, mais là, cela ne vous engage que vous. Alors, ça, c'est une dimension aussi que nous devons tenir compte. En seconde position, bon, même si les Ougandais partaient, moi, je pense que le gouvernement congolais est à côté de la Monique. Donc, qu'est-ce qui est impossible entre les FARDC et la Monique pour mettre fin à tous ces, au mouvement de tous ces petits groupes à l'Est? Moi, j'ai toujours eu confiance. Ça, c'est mon point de vue. J'ai toujours eu confiance à les FARDC et à la Monique. Donc, laissons la place à ces deux amis, la Monique et les FARDC. Ils sont capables d'arriver jusqu'à la fin pour ne pas mettre un terme avec toutes ces forces qui viennent d'ailleurs.
Merci beaucoup, Niro Mkwakalombo. Cela nous permet de passer à notre deuxième sujet. C'est le pourparler direct gouvernement CNDP en son ce vendredi à leur troisième journée. C'est à Goma, au Nord Kivu. Les discussions sur les questions politiques, administratives, sécuritaires et juridiques, ainsi que sur les matières humanitaires et sociales commencées hier jeudi, se poursuivent en commission. Selon M. l'abbé Jean Bosco Bahala, qui est du secrétariat commun des pourparlers, les travaux dans les deux commissions ad hoc qui ont comme base le cahier des charges du CNDP se déroulent dans un climat de parfaite cordialité et d'entente. Mais pourquoi cette rencontre se déroule sans la facilitation internationale? Bien sûr, réponse avec M. l'abbé Jean Bosco Bahala, expert de la délégation gouvernementale et co-secrétaire des séances dans cet entretien avec René Capita.
La nouvelle aile politique du CNDP et le gouvernement se rencontrent dans une session formelle pour que, ensemble, nous puissions trouver les voies et moyens d'arriver à la paix. Et les questions à traiter sont d'abord d'ordre politique, administratif, sécuritaire et juridique. Et cela a donné naissance à une commission qui est en train donc d'examiner ces questions là-bas. Parce que, comme vous le savez, le CNDP doit passer de son statut de mouvement politico-militaire à un parti politique. Enfin, il y a aussi des questions humanitaires et sociales. Ces questions concernent notamment le retour des déplacés de guerre dans leur milieu d'origine, le retour des réfugiés congolais qui sont dans les pays limitrophes, les questions de réinsertion sociale, les questions de libération des prisonniers. Toutes ces questions-là sont mises donc sur la table pour qu'ensemble on puisse arriver à un accord global. Et alors après, nous allons peut-être inviter les témoins qui sont la communauté internationale pour qu'ils constate que nous, Congolais, nous nous sommes entendus entre nous et que nous avons donc trouvé les voies et moyens de mettre fin définitivement à la situation de guerre que nous avons connue.
Ok, nous commençons avec vos victoires. Et Obi, vous avez suivi comment le monsieur l'abbé le déclare. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à cette étape des négociations, la présence de la facilitation n'est pas importante, qu'aujourd'hui les Congolais sont capables d'y aller jusqu'au bout sans une médiation extérieure?
Vous savez, la facilitation ne peut effectivement nous aider que si nous-mêmes, à notre niveau en tant que Congolais, nous commençons par comprendre le bien fondé de cette nouvelle démarche, de cet environnement qui est en train de se créer autour de nous. Et là, c'est très très souhaitable parce que dans toute négociation, l'objectif c'est toujours de mettre les parties face à face pour leur permettre d'échanger, de trouver les voies et moyens d'arriver à la paix. Et je suis très content concernant la méthodologie du fait que ils ont décidé d'attaquer les différents points qui pouvaient poser problème et de trouver des solutions avant d'inviter la facilitation internationale.
Ok, Claude Moulicho, KMB, revenons à vous. Vous êtes de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Est-ce qu'à cette étape, après tout ce qui est arrivé, l'intégration rapide des militaires FARDC, CNDP au sein de FARDC, est-ce que les négociations encore entre gouvernement CNDP, vous pensez que c'est vraiment très très important?
Oui, c'est aussi important parce qu'il y a encore des points qui restent pendants. Là, il faut essayer un peu de situer les contextes actuels des négociations, parce que quand on était à Nairobi, ce n'est pas la même chose que Goma qui a commencé avant-hier.
Mais le cahier des charges du CNDP reste pratiquement le même. Il n'y a pas tellement beaucoup de modifications par rapport au CNDP avec Nairobi.
Tout à fait, la donne a changé. Quand même, il faut reconnaître que même si le principe de négociation, c'est la reconnaissance mutuelle, le gouvernement congolais a reconnu le CNDP comme partenaire et le CNDP vice-versa. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. Sur le terrain, il y a une évolution. Parce qu'aujourd'hui, les choses vont se passer maintenant dans la sérénité, parce qu'à Nairobi, ça c'était sous pression. Sous pression parce que Nkunda était là, il avançait et négociait dans ce contexte-là. On pouvait signer un accord qui pouvait être mal apprécié par la population congolaise ou le peuple congolais. Mais aujourd'hui, les deux parties, moi je pense, peuvent négocier dans la sérénité sur les questions qui restent donc pendantes.
Effectivement, c'est quelles sont ces questions-là qui restent pendantes, qui doivent être réglées?
Bien sûr, on a parlé de CNDP comme parti politique. Aujourd'hui, il faut maintenant que le gouvernement agréé le CNDP comme parti politique au lieu et qu'il soit toujours un mouvement politico-militaire. Et là, le CNDP se voyait, il venait comme un libérateur pour libérer le peuple, je ne sais pas quelle libération, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. S'il y a des revendications, il y a des partis politiques qui évoluent à Kinshasa comme à travers le pays et qui donnent leur position sur les sujets d'actualité, sur la marche des affaires de l'État. Et le CNDP a tout intérêt à faire entendre sa voix en tant que parti politique. Et aujourd'hui, ces points peuvent être discutés au niveau de Goma, sans même médiation, parce que on peut écouter CNDP sans qu'il y ait la médiation, ou soit que la médiation peut être là. Il y a le dossier sécuritaire, il y a l'aspect humanitaire et social, et parce qu'on dit soi-disant une catégorie sociale est marginalisée, je ne sais pas c'est quelle marginalisation, alors que nous voyons que tout le monde est représenté dans les institutions et même dans les postes de responsabilité. Il y a des gens qui semblent défendre la cause du CNDP qui sont ici à Kinshasa, qui les voient au Parlement, au Sénat, et qui parlent, et qui sont libres, et même les gens qu'on disait que non, ils sont proches du CNDP, ils sont ici à Kinshasa, dans toutes les institutions, même dans les entreprises de l'État. Alors, le CNDP en tant que parti politique maintenant, pour faire entendre sa voix, et les choses évoluent normalement dans la démocratie la plus totale.
Je reviens à vous, Victoire Eyobi. Vous pensez aujourd'hui qu'il y a d'autres groupes armés qui ont signé les déclarations des cessations d'hostilité parce que le CNDP avait accepté de mettre fin à la guerre et qui ne sont pas à la table de ces négociations peuvent créer les surenchères le lendemain après que le gouvernement ait satisfait aux besoins du CNDP?
Oui, c'est possible. C'est pour cela qu'il faut beaucoup de sérieux dans les négociations actuelles, parce qu'avant ces négociations, vous vous souvenez, il y a eu le cadre à Mani qui avait intégré pratiquement toutes les forces armées au niveau de l'Est. Malheureusement, ce cadre a été boycotté. Je me dis qu'en plus du CNDP, il faudra que le gouvernement tienne compte des aspirations des autres forces autrefois rebelles, parce qu'ils ont accepté de déposer les armes, et voir comment également intégrer ces différentes exigences pour que la paix soit totale. La paix à l'Est, ce n'est pas seulement une question du CNDP, mais c'est une question de Mai Mai et des autres petites forces qui sont capables également d'inquiéter, qui sont capables d'empêcher les investisseurs d'arriver sur place. Et je me dis qu'on ne peut pas les négliger. À défaut de revenir au cadre à Mani, il faudra qu'on tienne compte d'une manière ou d'une autre des revendications de ces forces qui sont bien connues, bien identifiées et auxquelles le gouvernement, par question de sincérité, peut arriver à répondre comme il veut bien le faire, mais avec le CNDP.
Ok, Claude Woulich au KMB, vous pensez que c'est possible de parvenir à un remaniement du gouvernement pour insérer les membres du CNDP si jamais les négociations prenaient fin?
Bon, moi je me dis, pas seulement le CNDP, mais vous savez qu'aujourd'hui au niveau du gouvernement, il y a un petit vide, parce que celui qui était le ministre chargé des relations avec le Parlement est nommé directeur de cabinet du chef de l'État. Donc, le remaniement est imminent, parce que il y a des postes à combler. Mais le CNDP, moi je pense que le CNDP peut intégrer le gouvernement s'il n'y a pas de problème, mais le CNDP dans son cahier de charges a spécifié les points, mais à un certain moment il avait affiché l'ambition d'accéder au pouvoir. Et moi je pense que tout cela peut se négocier au niveau de Goma ou soit de Nairobi en présence de médiation ou soit des négociations secrètes avec le gouvernement. Comme des contacts ont déjà eu lieu entre les CNDP et le gouvernement et les choses vont évoluer dans, positivement et pour un dénouement heureux.
Je vous garde d'accord, vous avez parlé de l'intégration des éléments CNDP, de toutes ces frustrations qu'il y a, mais aujourd'hui, vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, un rapport des Nations Unies fustigeait le fait que le CNDP avait dans ses rangs des troupes, des éléments issus des démobilisés rwandais qui étaient dans les troupes de CNDP. Aujourd'hui, directement, tous les militaires CNDP sont intégrés dans les FARDC. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle sera la configuration de l'armée congolaise demain avec ces problèmes, ce rapport qui n'est pas même négligeable de présence du Rwandais dans l'armée du CNDP aujourd'hui qui sont intégrés dans le FARDC. Quelle sera la configuration de l'armée au lendemain?
Oui, il y a une inquiétude là-dessus, mais je pense que ça dépend de la volonté et du CNDP du gouvernement. Parce que si réellement le CNDP veut s'intégrer dans les forces de la République démocratique du Congo, il peut y avoir des inquiétudes. Parce que le problème, c'est que il y a, vous vous rappelez, il y a quelques années, au début de la transition plus 4, on voulait disperser un peu les forces intégrées, mais les rwandophones ont refusé d'être dispersés à travers la République. Pour quitter soit le Nord Kivu, pour aller dans le Bas-Congo.
C'est ce qui a abouti au mixage, effectivement.
Tout à fait, et cela n'a pas produit des effets. C'est ce que nous disons que le gouvernement, en négociant avec le CNDP, doit tenir compte de tout cela. Parce que les gens disent qu'il peut y avoir plus de 20 000 Tutsis dans l'armée. Bon, s'il n'y a pas d'inquiétude, ils disent que dans la bonne foi, ils intègrent l'armée nationale pour servir la nation sous le drapeau. Voilà, c'est bien. Mais si c'est pour venir encore piéger les gouvernements et piéger la nation, ça c'est... Mais moi, je pense qu'avec un point important qu'on doit souligner, c'est l'implication de la communauté internationale. C'est vrai que la Grande-Bretagne a beaucoup joué pour que les choses évoluent positivement aujourd'hui. Sur le terrain et sur le plan politique entre les CNDP et le gouvernement, je pense que la communauté internationale est en train d'accompagner le gouvernement central sur ce dossier-là pour que les choses évoluent positivement, pour que ça ne produise plus des effets négatifs.
Ok, merci. La réalisation m'indique que Niro Mukwakalombo est encore en ligne. Niro, je voudrais vous poser la question qui est celle de savoir, vous pensez qu'à l'issue de ces négociations, est-il possible aujourd'hui de procéder à un remaniement pour que le CNDP puisse être intégré au sein du gouvernement central?
La chose est apparemment claire que ces négociations qu'il y a aujourd'hui à Goma vont arriver nécessairement au remaniement. Parce que ce sont des négociations. Il faudrait que le gouvernement écoute les CNDP. Les CNDP aussi doivent écouter le gouvernement. Les CNDP vont chercher à s'imposer dans l'amiable pour qu'ils puissent se retrouver aussi dans le gouvernement. C'est ce qui fait que beaucoup de gens sont arrivés à qualifier cette rencontre comme étant une mascarade. Et c'est là par rapport aux différents groupes militaires qui sont disséminés par-ci par-là. Et puis l'un des quatre matins aussi vont chercher à se comporter comme les CNDP et on va aller à des pas au remaniement. Et si nous pouvons compter aujourd'hui, à part les CNDP, nous avons promis d'autres groupes militaires qui sont à l'est là-bas. Et ces groupes aussi, une fois, ils se comportent exactement comme les CNDP. N'est-ce pas, nous allons aller à des rencontres, négociations sur négociations.
Merci.
Donc c'est bon, aujourd'hui, cette négociation. Mais ça aboutit à quel type de résultats? Parce que nous sommes déjà dans la démocratie et qu'il y a déjà des jalons qui sont fixés. On ne peut plus revoir tel ou tel autre cas. Mais cette CNDP n'était pas impliquée dans les échéances électorales. Tout ce qui est déjà fixé fonctionne d'une façon logique et au profit et aux besoins de la population.
Ok, merci.
Je ne pense pas que jusque-là, okay. La population risque d'être prise au marteau et même forcée d'accepter certaines choses.
Merci
et
beaucoup.
La démocratie n'est pas de parler de choses.
Merci beaucoup, Niro Mukwakalombo. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur tous ces thèmes, mais nous sommes obligés à découvrir derrière les temps. Ce qui nous permet d'aborder les troisièmes thèmes de cette émission qui est consacrée aux francs congolais qui continuent sa dégringolade face au dollar américain. Le dollar s'échange ce vendredi à Kinshasa à 780 francs congolais contre 690 francs congolais il y a plus d'une semaine. Face à cette situation, la Banque centrale du Congo a augmenté les taux d'intérêt des billets de trésorerie pour attirer les devises devises dans son compte. Elle attend aussi recevoir des devises au moins de mars prochain lors des déclarations d'impôts et du paiement des soldes des contribuables. Suivant à cet effet, le gouverneur de la Banque centrale, Jean-Claude Massangou, qui l'a dit lors d'un point de presse tenu mercredi dernier à Kinshasa, ses propos sont recueillis par notre confrère Georges Kamoudouva qui était sur place.
Le mois de mars est un mois où les contribuables déclarent ses impôts et payent le solde de ses impôts. Donc nous attendons à ce qu'il y ait de fortes entrées en monnaie nationale pour réconforter le compte général du Trésor, et également aussi en devises pour la Banque centrale qui aura plus de moyens pour intervenir directement sur le marché. Mais lorsqu'on n'a pas suffisamment de devises pour intervenir sur le marché, bon, la Banque centrale intervient à travers le marché monétaire. C'est pour ça que nous avons augmenté les taux d'intérêt du BTR, billet de trésorerie, le taux de récord de la banque, pour faire en sorte que ceux qui possèdent de la devise puissent le changer, se mettre en francs congolais parce qu'ils gagnent des taux d'intérêt qui sont importants. Et alors à ce moment-là, bon, nous ponctionnons une liquidité en monnaie nationale. Et aussi, en ayant des excédents budgétaires, ils vont aussi ponctionner l'excédent de liquidité, et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons ponctionner tout cet excédent de liquidité à partir du mois de mars.
Rappelons aussi, comme je le disais au début de cette émission, que la Banque mondiale se propose d'octroyer à la RDC 100 millions de dollars américains pour faire face à la crise financière internationale, ainsi que la Banque africaine de développement, la BAD, qui propose aussi à la RDC 60 millions d'euros pour la même situation. Mais revenons à vous, Victor Eyobi, vous êtes effectivement sous publication de magazine économique. Qu'est-ce qui est à la base aujourd'hui de cette d'appréciation du franc congolais?
Bon, ce qui est vrai, c'est que nous évoluons dans un contexte international de crise et le Congo ne pouvait pas échapper aux effets qu'on a pu ressentir des États-Unis, en Europe également. Mais également, comme le gouverneur l'a si bien dit, il y a un problème de baisse de production dans notre pays, notamment dans les secteurs miniers. Vous savez, au Katanga, il y a eu un grand départ des investisseurs. Nous misions beaucoup sur les secteurs miniers. Malheureusement, avec la crise financière, la plupart des investisseurs ont fait leurs valises et ils sont partis. Mais je voulais un peu m'appesantir d'abord sur les solutions proposées par les gouverneurs qui pensent que nous pouvons relancer entre autres l'agriculture, mais également les entreprises de microfinance. À propos de l'agriculture, je pense que à notre niveau, il ne s'agit pas maintenant de planter, mais il s'agit plutôt de créer des filières qui facilitent la circulation de biens, qui facilitent l'acheminement de biens, des filières qui permettent au monde rural de mieux s'exprimer pour comment inonder les marchés, mais également amener le Congo à exporter.
Par exemple, quelles filières qu'on peut développer en ce moment, parce que nous sommes vraiment en situation d'urgence.
En situation d'urgence, bien sûr, tout dépend des produits qui sont actuellement en saison. Ça peut être le maïs, ça peut être le manioc. Il y a autant de produits dans notre pays que nous pouvons organiser, que nous pouvons vendre à l'extérieur et avoir de l'argent. Ce n'est pas tellement la production qui manque au Congo, mais plutôt un problème de filière, parce que jusque-là, ce sont les populations des villes qui vont vers les zones rurales, qui imposent des prix, et de l'autre côté, on ne se retrouve pas sur le plan production. Donc, de l'autre côté, il y a les microfinances, mais les microfinances, on peut également se poser des questions. Est-ce qu'elles sont suffisamment organisées pour canaliser les différents fonds qui leur seront octroyés? C'est autant de questions que le gouvernement doit arriver à répondre.
Ok, nous allons rejoindre notre confrère Niro Mukwakalombo qui est à Bandundouville. Quelles sont les conséquences directes que vous vivez sur place, que la population de Bandundouville vit par rapport à cette situation de la dépréciation du franc congolais?
Oui, en fait, à Bandundouville, la dépréciation du franc congolais a des effets néfastes. Rien que depuis le début du mois de janvier 2009 jusqu'à nos jours, l'effet de foufou est parti de 7 000 francs à 20 000 francs congolais. Et cette situation n'est pas au beau fixe parce que beaucoup de ménages, pratiquement aujourd'hui, traversent des moments difficiles parce que le revenu même, le salaire des agents de l'État n'a pas changé. Mais sur le marché, vous êtes en train d'acheter avec des innovations qui vous sont imposées par la monnaie étrangère. Alors, vous voyez déjà que cette dépréciation, c'est elle qui est à la base de la vie sociale de la population. Donc, pour que nous puissions en sortir, il faudrait que le gouvernement puisse placer des stratégies qui peuvent arriver à un résultat efficace et durable pour que la population tout entière de la RDC puisse, respirer un air frais.
Merci beaucoup.
Nous prenons un exemple. Jadis était les greniers même de la République démocratique du Congo. Mais pour l'instant, il n'y a aucune industrie dans la province du Bandundu. Toutes les industries minières, toutes les routes de desserte agricole ne sont plus en marche. Et vous pouvez croire que cette situation, aujourd'hui, que ça peut s'attendre à un résultat efficace dans les domaines agricoles. C'est du tout zéro. Alors, il est temps maintenant. Avec la politique actuelle, surtout le chef de l'État a dit qu'il va placer, il met l'accent sur l'agriculture. Nous espérons qu'une fois cela c'est dit de la sorte, que ça puisse avoir aussi des effets sur le terrain.
Merci beaucoup.
Cet argent, même la Banque mondiale va donner au gouvernement congolais, la BAD va donner au gouvernement congolais, qu'on puisse organiser le secteur agricole, non à Kinshasa, non dans des centres-villes, parce que la forêt, la brousse n'est pas à Kinshasa ou au centre-ville.
Merci beaucoup, Niro Mukatalombo, vraiment. L'État nous fait défaut. Niro Mukatalombo, merci beaucoup, merci beaucoup. L'État nous fait défaut. Nous n'avons plus que 3 minutes pour terminer cette émission. Nous allons prendre Claude Moulish au KIMB. Vous pensez que les 100 millions de la Banque mondiale, les 60 millions d'euros de la BAD, tout cela, toutes ces mesures vont finalement aider la RDC à se redresser, à sauver encore ce qui peut être sauvé? Nous sommes presque à la fin de l'émission.
Oui, mais ça peut soulager un peu, mais pas régler complètement les problèmes. Le Congo a besoin, le Grand Congo, le Congo Kinshasa a besoin des routes et de l'énergie. On a toujours dit ça. Parce que la terre, Dieu nous l'a donnée, nous l'avait déjà donnée. Et la terre, nous avons des saisons, mais c'est question d'évacuer les produits. Nous n'avons pas de routes. Et comme notre économie est extravertie, nous devons tous importer de l'extérieur. Même les riz, c'est ça le problème. Et pour compenser cela, mais il y a des efforts qui sont d'entrée et fournis pour que nous puissions arriver à construire des routes et à mécaniser l'agriculture. Notre conseiller de banque en a parlé. Et au niveau de la banque centrale aussi, il faut que les banques commerciales soient alimentées et travaillent concrètement. Les banques commerciales n'existent presque plus au Congo parce que toutes dépenses de l'État sont au niveau de la banque centrale. Donc c'est pas normal. Et même un petit document de 20 000 dollars, il faut voir le gouverneur, la signature du gouverneur. Là, tout est centralisé. Donc il faut relancer les circuits bancaires au niveau des banques commerciales, il faut ouvrir les routes, il faut qu'il y ait l'énergie. L'énergie, c'est les sources du développement. Vraiment, l'énergie, s'il y a de l'énergie dans les campagnes, il y aura des répercussions sur le plan économique et le peuple peut être soulagé face à cette crise financière qui menace l'humanité.
Ok, Victor et Yobi, placez juste un mot pour 30 secondes, on termine par vous par rapport à cette situation, parce que vous avez quelque chose à dire.
Je crois que la crise, autant que nous l'avons vu à l'Union européenne, comme aux États-Unis, mérite une mobilisation de tous les dirigeants congolais, de la société civile, pour arrêter les stratégies qui seront appliquées, qui pourront donner des fruits palpables.
Merci, c'est par vous, Victor Eyobi, que nous mettons un point final à cette émission. Merci à Claude Molichaud, journaliste à la chaîne des radio-télévisions nationales congolaises, RTNC, et médecin à Kinshasa. Merci à Niro Mukwakalombo, que nous avons pris dans le Bandundu, qui est correspondant de la chaîne des radio-télévisions Groupe L'Avenir. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous disons merci à Jean-Claude Tombakamara, qui a réalisé cette émission, qui a été mise en œuvre, bien sûr, par Sylvain Matondo, toute l'équipe des dialogues entre Congolais, Claude Aurélie Moupapa, sous la coordination de Martin Soubou-Jangwe. Vous avez préparé cette émission et nous faisons aussi un coucou à Kéline Poutet. On se retrouve le vendredi prochain pour une autre tribune de la presse. Au revoir et portez-vous bien chez vous.